Nous remercions le Seigneur pour votre présence à ce culte et nous croyons que le Seigneur va vous bénir. Nous disons aussi merci à vous qui êtes en train de suivre le culte en ligne et nous espérons que le Seigneur va vous bénir. Nous invitons les serviteurs de Dieu. Il va poursuivre le programme.
Oh. Esprit du Dieu vivant, nous approchons maintenant les repas de notre esprit qui est absent des paroles pures.
Devant toi encore à ce moment, Seigneur, nous avons besoin que tu nous touches encore par ta parole, par la puissance de ton Esprit Saint qui est parmi nous, qui est en nous, et qui veut aujourd'hui encore nous donner quelque chose de nouveau qui va transformer davantage notre existence. Bénis-nous au travers de ta parole, te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci à Dieu qui a permis que nous puissions encore être là. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes présents aujourd'hui. Nous allons poursuivre les enseignements que nous avons commencé le lundi autour du thème « Les dons du Saint-Esprit dans l'Église ». Quels sont les bienfaits, les avantages? Mais quels sont les défis liés à ces dons que nous devons relever pour que ça fonctionne bien au sein de l'Église? Et hier après-midi, nous avons commencé l'analyse de ces dons-là, fondée sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11, où fondamentalement, Paul nous présente les différents dons du Saint-Esprit qui fonctionne dans l'Église. Nous avons rappelé que ce n'est pas le seul texte qui parle des dons spirituels. On en parle en Romains, on en parle en Éphésiens, et peut-être aussi dans d'autres livres, mais 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 et suivant, et chapitre 14, c'est ça le texte fondamental où il est un exposé systématique sur les dons spirituels. Alors, la fois passée, hier, nous avons parlé du don de la parole de sagesse. Nous avons aussi parlé du don de la parole de connaissance. Nous avons ensuite parlé du don de discernement des esprits. Nous avons ensuite, après ça, parlé du don, après la parole de connaissance, nous avons parlé... C'était les dons de guérison. Nous avons ensuite parlé du don de quoi? D'opérer des miracles. Et nous avons parlé du don de la foi. Alors, je voudrais que nous puissions revenir sur le septième don, qui est le don des prophéties. Parce que c'est là, je crois, que nous nous sommes arrêtés lorsque nous avons dit que si nous abordons ce point-là, nous risquons de ne pas terminer parce que c'est un point qui parle de beaucoup d'aspects, les dons des prophéties. Alors, les dons des prophéties n'est pas ici à confondre avec le ministère des prophètes. D'ailleurs, quand on parle des ministères des prophètes, ça s'est présenté dans l'Ancien Testament comme étant une profession. C'est-à-dire, on est appelé pour être prophète et on le reste. C'est comme pasteur aujourd'hui. On nous appelle pour devenir des pasteurs et nous restons pasteurs jusqu'à la retraite. C'est une profession. Mais les dons des prophéties dont il est question ici n'est pas une profession. Ce n'est pas un service. C'est un don spirituel, une intervention surnaturelle que le Seigneur nous donne à un moment donné, quand il veut le donner, à qui il veut le donner, où il veut le faire. Alors, une intervention surnaturelle qui vient de Dieu par son Saint-Esprit et qui accorde aux croyants la capacité surnaturelle d'inspiration qui permet à celui-ci de connaître les choses cachées sur l'avenir et de les dire à tous ceux-là qui veulent l'entendre avec de plus amples précisions. C'est-à-dire avec la prophétie, le Seigneur intervient et il vous accorde la possibilité de comprendre les choses, de percer les secrets qui concernent l'avenir et le futur. Alors cette capacité vous donne des informations précises sur l'avenir longtemps avant que cela puisse se produire. Et cela fait que lorsque vous allez parler de ça, les gens vont s'étonner. Et ils vont encore s'étonner davantage lorsque les choses vont s'accomplir telles que vous les avez décrites. Alors, l'objectif de ces dons, c'est de prévenir à l'avance, de préparer le peuple de Dieu qui écoute à ce qui va arriver, et souvent pour qu'il puisse être capable de prévenir les pires qui peuvent arriver. C'est-à-dire, les dons de prophétie agissent souvent comme un avertissement. Il y a ceci qui va arriver, il faut vous y préparer. Le deuxième volet, c'est que vous puissiez prendre des dispositions pour que vous puissiez faire ce qui est recommandé par Dieu pour que les pires ne puissent pas vous arriver. Alors, je reviens sur le but du don de prophétie, mais avant d'en arriver là, je vais vouloir que nous puissions lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 21. Actes des Apôtres 21, où il y a un exemple frappant de ce que je viens de dire là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 21, nous allons lire verset 7 au verset 14. La parole de Dieu dit ceci. « Achevant notre navigation, nous allâmes à Tyre, à Ptolémaïs, où nous saluâmes le frère et passâmes un jour avec eux. Partîmes le lendemain et arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il arriva quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter où ? À Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en plairant et en méprisant les cœurs ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour les noms de qui ? Du Seigneur Jésus. » Tout ce que je venais de dire là, se réalise dans ces versets. Paul est en voyage, il est en train d'aller vers Jérusalem, mais il arrive quelque part, il dit « descendons ici » parce qu'ils utilisent les bateaux, parce que nous voulons visiter un frère ici. Ils entrent chez quelqu'un, Philippe, il loge là-bas. Alors, il y a un prophète, quelqu'un qui était parmi les frères de Jérusalem, qui descend, qui les trouve là-bas, et soudain, pendant qu'ils sont ensemble, il prend la ceinture de Paul. Il serre les pieds et les mains avec la ceinture. Je ne sais pas la ceinture était de quelle taille. Alors, il dit, voici ce que le Saint-Esprit dit. Ce n'est pas qu'il est descendu de Jérusalem avec les messages. Le message l'a trouvé là, quand il était déjà avec les frères et sœurs qui étaient avec Paul. Paul y compris. Alors, c'est l'Esprit qui lui dit, prends la ceinture. L'Esprit lui dit, attache, lie-toi les mains et les pieds avec la ceinture. Ça deviendra un matériel didactique que tu vas utiliser pour dire ce que l'Esprit, ce que Dieu veut communiquer. Alors, il se lie et il donne les messages. Il dit, vous connaissez celui à qui appartient cette ceinture. C'est Paul. Il est en train de monter à Jérusalem, mais la réalité c'est que lorsqu'il va y arriver, les Juifs vont les voir, vont les prendre. Ils vont les lier et ils vont les livrer aux païens pour qu'on les fasse mourir. Alors, parce que la prophétie est là pour avertir, elle est là pour parler à l'avance de ce qui va arriver, pour préparer ceux-là qui sont en train d'écouter, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour éviter les pires si cela est possible. Alors, ils prennent la responsabilité d'éviter à Paul, les pires qui devaient lui arriver à Jérusalem. Ils disent, Paul, tu vois ce que le Seigneur, par son Saint-Esprit, vient de dire, ce n'est pas bon que tu montes à Jérusalem. Il faut rester ici. Et Paul, il réplique, il dit, mais qu'est-ce que vous me faites? Vous me brisez le cœur. Dans les voyages que je suis en train d'entreprendre, je suis prêt, non seulement à être lié, mais aussi et même à mourir à cause du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une parole de foi. C'est quelle sorte de foi? Nous avons parlé de la foi avec les quatre différentes catégories. Il est à quel niveau de sa foi? C'est une foi basée sur le réma. Parce que le Seigneur lui avait déjà parlé d'une manière spécifique à lui et non pas aux autres. À lui, il lui avait déjà dit, tu vas monter, mais il se pourrait qu'il puisse arriver qu'on te lie, sois prêt. Il se pourrait qu'on puisse même arriver à te faire mourir, tu dois être prêt. Amen. On ne peut pas en arriver à des situations comme celle-là si on n'a pas une parole spécifique pour une situation spécifique pour la personne de manière particulière. Parce que c'est cette foi basée sur le réma qui est la foi qui déplace les montagnes. Déplacer les montagnes, ça veut dire ça dissipe toutes sortes de doutes de manière à ce que vous êtes persuadé complètement qu'avec le Seigneur, il y a quelque chose de miraculeux qui va se produire. Et vous avancez avec le Seigneur sans plus de crainte. Amen. Amen. C'est cette foi qui arrive aujourd'hui, même pour ceux-là qui sont en train d'être tués pour l'Évangile en Chine, en Inde et ailleurs. Parce que le Seigneur s'adresse à eux, pas collectivement, mais d'une façon particulière à une personne. Il dit, voici pour toi ce que je prépare. Alors, c'est ça ce qui est arrivé. Alors, le but, c'est que pour édifier et rendre fort les membres de l'Église. Ça, c'est la prophétie. La prophétie vient nous donner la force de continuer malgré la situation. La prophétie peut venir pour exhorter les membres de l'Église en leur donnant des orientations et des directives précises à suivre dans des circonstances particulières. Ça, c'est la prophétie. Ça peut aussi venir pour consoler celui qui est dans la détresse, celui qui est dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la panique, durant des moments difficiles, pour qu'il soit capable de traverser la situation à laquelle il est confronté. et lui redonner de l'espoir pour l'avenir. C'est aussi possible que la prophétie vienne pour révéler l'état de l'esprit et du cœur des personnes qui sont là, qui écoutent, afin qu'ils puissent changer, afin qu'ils puissent se convertir et se repentir. S'ils ne connaissent pas encore le Seigneur, ils se convertissent en Seigneur pour avoir le salut. S'ils pensent qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils sont en train de marcher en contre-courant de la volonté de Dieu, sans le savoir peut-être, ça leur donne l'occasion de se repentir et de revenir sur la voie de la vérité. Alors, il faut faire attention avec la prophétie, parce que il faut que la prophétie soit en pleine harmonie avec la parole de Dieu qui est couchée dans les Écritures, pour que cette prophétie soit une bonne prophétie. Parce que chaque fois qu'une prophétie viendra pour dire quelque chose qui est contraire à ce qui est dans la Bible, alors ce sera le premier signe par lequel vous allez identifier une fausse prophétie et les faux prophètes. Amen. Amen. C'est pour cela que dans l'Église, pour que les dons de prophétie puissent fonctionner comme il faut que tout le monde qui attend d'être utilisé par le Saint-Esprit en lui accordant des manifestations de dons spirituels puisse être assidu dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu et la prière. Amen. Amen. Parce que nous sommes là, pour, nous nous préparons à recevoir du Seigneur des manifestations spirituelles qui sont surnaturelles. Alors, si nous ne lisons pas la Bible, le diable peut nous donner quelque chose qui a la forme d'un don spirituel et nous embrassons, nous commençons à utiliser sans savoir que nous sommes manipulés par le diable. Amen. Alors, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous éclaire suffisamment pour que nous puissions savoir identifier. Est-ce que ça s'harmonise bien avec la parole de Dieu? Sinon, alors j'ai dit, non, je dois être sur mes gardes parce que je ne sais pas si ça vient de Dieu. Ce n'est pas mal de prendre du recul, de prendre des réserves avant de décider, avant de se laisser entraîner par l'Esprit qui vous sollicite. Parce qu'il faut vous assurer que c'est l'Esprit de Dieu avant de se lancer. Alors, c'est parce que le Saint-Esprit, lui, quand il accorde un don, surtout s'il s'agit du don de prophétie, il puise dans les Saintes Écritures. Parce que vous vous souvenez que Jésus avait dit, « Il parlera de ce qui est de moi. Il puisera dans ce qui a été déjà couché par écrit comme parole de Dieu. Et il ne puisera pas à côté de ça. » C'est-à-dire, si une prophétie ne ressemble pas à la parole de Dieu, alors c'est un signe que ce n'est pas une bonne prophétie. Donc, nous devons faire attention et nous assurer que nous sommes sur la voie de la vérité ou pas sur la voie de la vérité. Ça veut dire que quelqu'un qui veut être utilisé devrait s'assurer que ce que je vois là, je ne me trompe pas sur le vrai. Mais nous avons encore souligné en disant, pour connaître le vrai, pour connaître le faux, il faut connaître le vrai. Parce que si vous ne connaissez pas le vrai, il est possible qu'on puisse vous tromper avec le faux. Et là, vous allez penser que c'est le vrai parce que vous ne connaissez pas le vrai. Que le Seigneur nous aide vraiment à tenir compte de cela. Alors, passons au huitième don qui est les dons du parler en langue. Les dons du parler en langue. Alors, donc ici, parler en langue, ce n'est pas une question relative à la traduction de la langue. Vous pouvez être un interprète qui traduit. Ce n'est pas ça, les dons de parler en langue. Vous pouvez faire ce que Ramazani a fait ici la fois passée dimanche. Quelqu'un parle en swahili, lui traduit en français. Ce n'est pas ça, les dons de parler en langue. Le parler en langue, c'est une manifestation aussi spirituelle et surnaturelle qui arrive lorsque quelqu'un a la grâce surnaturelle, instantanée, d'écouter quelqu'un qui parle dans une langue que lui-même ne connaît pas parce qu'il ne l'a pas étudiée. Mais il a la grâce de comprendre parfaitement ce qui est en train d'être dit et de communiquer avec beaucoup de précision ce qu'il a entendu aux autres qui ne connaissent pas la langue, mais qui ont besoin de comprendre ce qui est en train de se dire dans cette langue-là. Amen. Amen. C'est une langue étrangère. C'est une langue que vous ne connaissez pas. Mais vous entendez quelqu'un la parler. Vous ne comprenez rien au premier moment. Mais subitement, vous êtes saisi par l'Esprit Saint. Et il vous donne la capacité d'écouter, de comprendre. Et vous êtes en mesure de communiquer ce que vous comprenez d'une langue que vous ne connaissiez pas avant que le Saint-Esprit n'intervienne. Et vous communiquez à ceux-là qui ne connaissent pas cette langue comme si vous la connaissiez. Après que l'événement du Saint-Esprit, que la manifestation soit passée, alors vous pouvez encore écouter quelqu'un qui parle cette langue-là, vous n'allez rien saisir. Parce que ce n'est pas vous qui avez saisi et qui avez parlé, c'est le Saint-Esprit qui a écouté, qui a compris et qui a parlé en vous. Amen. C'est ça, le parler en langue. Alors, ceux qui ont étudié le parler en langue se sont basés au verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, il dit ceci. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, les discernements des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Ici, on parle de la diversité des langues. Diversification. Ça veut dire qu'il y a plusieurs langues. Alors, basé sur ce concept diversité, ceux qui ont fait des études approfondies sur les dons, ils ont trouvé qu'il existe deux sortes de langues. J'ai dit combien de sortes? Deux sortes de langues. Ceux-là qui parlent en langue peuvent utiliser l'une ou l'autre de ces deux sortes. Ou ils peuvent utiliser les deux sortes. Mais alors la Bible, quand elle dit parler en langue, alors quand il y a ces deux-là, laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle xénoglossie. Xénoglossie. Ça vient de deux termes grecs. Il y a xénos et glossa. Xénos signifie étranger. Je crois que vous trouvez ça dans des mots. Vous trouvez ça dans quel mot? Le xéno. La xénophobie. Phobie signifie haine ou peur. Et xéno signifie étranger. La haine des étrangers ou la peur des étrangers, c'est ce qu'on appelle xénophobie. Alors ici, ce n'est pas la peur des étrangers, parce que c'est xéno, étranger, mais glossa. Glossa, c'est la langue. Alors la langue des étrangers, c'est la langue étrangère. Ça, c'est la première catégorie. Alors, de quoi s'agit-il dans la glossolalie, dans la xénoglossie? Plutôt, parce que la glossolalie, c'est la deuxième que je vais expliquer plus tard. Alors, il s'agit de quelqu'un qui parle en langue, mais il parle une langue étrangère qui existe, une langue étrangère vraie qui existe. Alors, c'est lui qui est là, c'est lui qui parle, il ne connaît pas la langue, mais il la parle parfaitement parce qu'il y a intervention surnaturelle du Saint-Esprit en lui. C'est une manifestation surnaturel du Saint-Esprit. Il parle une langue vraie qui existe, une langue étrangère, mais que lui-même ne connaît pas. Alors, il la parle. Si dans la communauté qui écoute, il y a quelqu'un qui appartient à cette langue, qui parle cette langue-là, qui est de la tribu qui parle cette langue-là, qui est de la communauté de la langue, il va écouter parfaitement. Et il va dire, voici ce qu'il a dit. Parce qu'il connaît la langue. Mais celui qui la parle ne connaît pas la langue et il ne l'écoute même pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais il parle sous l'impulsion du Saint-Esprit. Alors celui qui connaît la langue, il vient et il dit, voici ce que tu as dit. Ou alors si c'est dans une communauté, il va dire, voici ce qu'il a dit. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 2, où les apôtres remplis du Saint-Esprit, ils parlent en des langues différentes. Parce que l'objectif du Saint-Esprit, c'était qu'ils puissent utiliser des langues qu'ils ne connaissent pas, Mais parce que dans la ville, il y avait des personnes qui sont venues adorer le Seigneur et qui viennent des communautés qui parlent ces langues-là pour que chacun puisse écouter les messages de l'Évangile dans sa propre langue. Amen. Ça, c'était quelle sorte de langue? Xénoglossie. Xénoglossa. Langue étrangère vraie qui existe, qui est parlée par quelqu'un qui ne la connaît pas et qui ne l'écoute pas, mais il la parle correctement sous l'impulsion, sous la manifestation du Saint-Esprit. Amen. J'ai dit bien que après que les manifestations vont s'arrêter et la personne s'arrête de parler, il ne sait plus même prononcer un seul mot après, parce que d'ailleurs il ne comprend même pas et ça se termine là. Mais celui qui connaissait la langue qui est là, il comprend et il peut expliquer. S'il n'y a pas quelqu'un qui comprend, alors là, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui reçoit les dons d'interprétation des langues pour comprendre miraculeusement et commencer à expliquer les sens miraculeusement. Après que cette interprétation pourra quitter, lui-même ne sera plus aussi capable de suivre, de comprendre et d'expliquer. Amen. Ça se comprend? Merci beaucoup. La deuxième catégorie, c'est la glossolalie. Ça vient aussi de deux concepts grecs. Il y a la glossa, qui est quoi? La langue, et la lia, qui est traduit en grec. Là, j'ai traduit exactement comme les Grecs l'ont dit. C'est le bavardage ou l'abondance des paroles futiles, c'est-à-dire qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'utilité, qui n'ont pas d'importance. Alors, ça veut dire quoi? Quelqu'un parle une langue, ce n'est pas une langue étrangère, parce que ça n'existe nulle part au monde. Peut-être ça, c'est là que Paul parle de la langue des anges. Ce n'est pas une langue humaine, c'est une langue que les humains ne connaissent pas, et c'est une langue où on va dire des paroles qui n'ont aucun sens dans le monde naturel. Alors, ici, on va dire que le lalia signifie bavardage. Bavardage, c'est encore bien, parce que vous pouvez bavarder en disant des choses importantes, significatives. Mais ici, le grec expressément dit, le lalia, ce sont des paroles fortuites qui peuvent abonder, mais sans avoir de l'importance. Alors, ici, il peut arriver que le Saint-Esprit vous donne cette langue-là et vous la parlez. Il n'y a personne qui la connaît. Sous la terre, il n'y a personne. Ceux qui connaissent la langue-là, ce sont des anges. Alors, il faut que, quand vous parlez cette langue-là, le Saint-Esprit intervienne avec quelqu'un d'autre en lui remplissant les dons de la langue, d'interprétation des langues. Alors, il peut écouter la langue des anges et il vous dit, voici ce qu'il a dit. Alors, vous comprenez que là, c'est dangereux. Parce que les charlatans, c'est par là qu'ils passent pour tromper les gens. Pour dire, Dieu a dit. Alors que Dieu a dit, Hakojiseme a kekit. Alors, donc, nous devons faire attention parce que il y a beaucoup de risques lorsque nous mettons beaucoup d'accent et d'importance sur le parler en langue. Parce qu'il y a des conditions pour que cette parler en langue soit un parler en langue acceptable devant Dieu. Parce que si vous voyez, parmi les conditions, si vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 14, je voudrais que nous puissions lire là. 1 Corinthiens chapitre 14, vous tournez seulement la page. Si vous lisez à partir du premier verset, vous allez voir comment Paul parle de la langue. Il dit, parler en langue, c'est bien, parler en langue, c'est bien. Mais je voudrais que nous puissions lire 27 à 28. 14, 27 à 28, il dit, « En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète ?» 28, « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Après avoir parlé des avantages du parler en langue, Paul, dans la première partie du chapitre, alors à la fin, il dit, « Je vous dis que cela doit être pour l'édification de l'Église. Si ce n'est pas pour l'édification de l'Église, alors c'est un problème. Donc, il y a deux grandes conditions. Peut-être on peut en avoir plus, mais je voudrais me résumer à deux. La première condition, s'il y a parlé en langue, il n'y a jamais manqué, si ça vient du Saint-Esprit, il n'y a jamais manqué des dons d'interprétation des langues. Ça va toujours de pair. Dans l'Église, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, que ce soit la xénolalie ou la glossolalie, il faut qu'il y ait un interprète. S'il y a absence d'un interprète, ça ne vaut plus la peine que cela puisse être utilisé au milieu de l'Église. Amen. Amen. Et il ajoute, s'il y a des personnes qui veulent parler en langue, vous n'avez pas l'autorisation de parler en langue tous à la fois. Il y a quelqu'un qui posait la question la fois passée. Est-ce que le Saint-Esprit peut donner le don des langues à toute une église? Le verset dit, toute une église peut en avoir, il n'y a pas de problème, à condition que lorsqu'on parle en langue, que deux ou trois personnes seulement parlent et chacun à son tour. Mais quand vous commencez à parler en langue, tout le monde à la fois, plus de trois personnes, vous êtes dans la cacophonie, c'est un désordre. Ça ne vient plus du Saint-Esprit. Amen. Vous allez vous étonner, mais je ne suis pas en train de dire autre chose que ce qui est dit dans la Bible. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Alors ça, c'est la première condition. Et je crois que ceux qui pensent que nous sommes faibles, nous, les baptistes, parce que nous ne parlons pas beaucoup en langue, c'est tout simplement parce que nous nous basons sur les Saintes Écritures et les Saintes Écritures nous donnent les limites de la liberté d'action, de la liberté d'utilisation, d'opérationnalisation des dons, surtout les dons de la langue. Quand c'est une seule personne, vous êtes autorisé de parler. Vous parlez, mais à un certain moment donné, il faut écouter. Est-ce qu'il y a un interprète? Si tu vois qu'il n'y a pas un interprète, lorsque tu prends la pause en parlant, alors, il faut te dire immédiatement, là je suis sur une mauvaise pente, je dois attendre quand je serai seul à seul avec Dieu pour continuer avec mon parler en langue. C'est ce qui est dit au verset 28. Ils disent quoi? S'il n'y a point d'interprète, qu'on s'était dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Peut-être vous pouvez arrêter de parler à haute voix parce que c'est en public et vous commencez à parler dans votre cœur avec Dieu. Ou vous attendez que vous puissiez aller dans une chambre où vous allez être seul à seul avec Dieu et vous commencez à parler. En dehors de ça, vous avez débordé la ligne rouge et vous êtes punissable parce que ce n'est plus le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose comme condition, on se pose la question. Lorsqu'il y a interprétation, parce que c'est en public, ceux-là qui ont écouté la langue étrangère, la langue des anges, et qui ne comprenaient rien, ils ont l'avantage d'écouter l'explication, la signification et d'être édifiés. Amen. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui donne l'explication, parce que c'est l'explication qui va édifier les membres de l'Église, alors ce don de parler en langue n'en est pas un. Parce que un don, tous les dons, et spécifiquement le don de parler en langue, Dieu les donne pour édifier son Église, pour fortifier la foi de l'Église. Chacun individuellement et tout le monde collectivement. S'il n'y a pas édification, si vous ne vous sentez pas édifié, si vous ne grandissez pas, si vous ne sentez pas que vous avez fait un pas dans la croissance spirituelle parce que vous avez écouté quelqu'un qui parlait en langue, ça n'a pas édifié, donc ça n'a pas de raison d'être, donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui a envoyé ça dans l'Église parce que le Saint-Esprit n'agit que pour édifier l'Église. Alors ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc je viens déjà d'introduire ce que je devais dire sur le don d'interprétation de la langue. Alors, je venais de dire, et c'est le dernier don sur la liste des neuf. Le parler en langue et l'interprétation de la langue marchent ensemble comme le pied droit et le pied gauche. Il n'y a personne qui peut vouloir qu'on puisse lui amputer un pied, que ce soit gauche ou droite, et qu'il marche avec des béquilles. Alors c'est une situation anormale que de venir utiliser le parler en langue sans interprétation des langues à côté. Et ce n'est pas prudent, ce n'est pas dit dans la parole de Dieu que quelqu'un peut venir avec le parler en langue et lui-même vient avec l'interprétation des langues. Nous voyons ça se faire beaucoup plus dans les églises de réveil, mais ce n'est plus normal parce que la parole de Dieu ne le dit pas comme ça. Nous venons de dire que les dons doivent être conformes à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, lorsque ça s'écarte de la conformité de la parole de Dieu, ça ne vient plus de Dieu et il faut que le Seigneur nous aide à éviter cela. Alors donc, l'interprétation des langues, c'est une intervention surnaturelle du Saint-Esprit qui vous donne la capacité de comprendre une langue que vous n'avez jamais étudiée, que vous n'avez jamais parlé, mais de comprendre ce qui est dit et de ne pas traduire seulement, mais d'expliquer l'essence de ce qui a été dit dans la langue, qui a été parlé. Mais parce que vous avez eu cette grâce spéciale d'écouter et de comprendre, vous pouvez expliquer qu'est-ce qui a été dit dans les messages. C'est ce qui est dit là. Alors donc, s'il n'y a pas d'interprétation, ou s'il y a une interprétation fantaisiste, parce qu'il y en a toujours, il faut faire attention. Donc, lorsque vous suivez, la troisième condition, c'est ce que je venais de dire, il faut voir la conformité avec la parole de Dieu. Le message est-il conforme avec ce que la Bible dit? N'allez pas dire le mensonge en disant « Non, ça c'est mon rhéma, parce que c'est moi que j'ai entendu ça comme ça. » Même si c'est un rhéma, ça doit s'harmoniser avec la parole de Dieu. Tous les rhémas qui doivent venir après avoir clôturé l'écriture de la Bible doivent avoir un soubassement dans la Bible. Tous les messages qui sont communiqués dans les parler en langue doivent avoir un soubassement dans la Bible. C'est-à-dire, quand le message est sorti, il faut vous poser la question. Il est conforme, il est basé sur quel texte biblique pour que j'accepte que ça vient du Saint-Esprit? Si vous manquez le texte biblique, alors dites-vous, au lieu de m'hasarder sur ce chemin glissant, je me réserve. Et vous n'avez pas péché pour autant en prenant cette disposition-là. Alors terminons, parce que j'ai terminé avec chacun des dons. J'ai expliqué brièvement ce que cela signifie. Je ne peux pas m'étendre longtemps sur chacun d'entre eux, à moins que nous soyons à privé, parce que le temps nous presse. Je passe aux caractéristiques d'une personne susceptible de recevoir les dons spirituels pour les utiliser de manière acceptable, c'est-à-dire en harmonie avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'Église a voulu que nous puissions parler des dons spirituels. C'était pour que nous sachions que c'est du bien, ce sont des bonnes choses que le Seigneur veut nous donner à l'Église pour que l'Église soit édifiée, que les membres de l'Église individuellement et collectivement soient touchés, se sentent saisis par Dieu et se sentent engagés dans la voie de la croissance qualitative dans la foi. Alors c'est important que vous puissiez être disposés à être utilisés par Dieu dans le sens de l'opérationnalisation des dons spirituels. Mais quelles sont les caractéristiques d'une personne qui est capable de recevoir les dons spirituels venus du Saint-Esprit réellement, pas de notre esprit, mais le Saint-Esprit lui-même, est capable de les utiliser conformément à la volonté de Dieu. Revenons au verset 1 du chapitre 12 pour comprendre ce que l'Esprit veut nous dire. Le verset 1 dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. J'ai parlé de ce texte encore la fois passée, mais je voudrais y revenir un peu pour vous dire que le terme don spirituel qui est là, le concept de spirituel, pneumatikos, réfère au don spirituel au sens d'une aptitude surnaturelle venant de Dieu et qui devient partie intégrante du croyant né de nouveau lorsqu'il se confie au Seigneur. Vous vous confiez au Seigneur, vous êtes déjà né de nouveau. Et alors, le Saint-Esprit est disposé à vous donner les dons spirituels. Et quand il est disposé à vous donner les dons spirituels, il veut vous trouver dans les dispositions adéquates pour recevoir les dons spirituels. Parce que, avec ces dons spirituels, Dieu veut t'utiliser comme un instrument entre ses mains. Amen. Amen. Il veut t'utiliser comme un instrument entre ses mains. Parce que c'est lui qui choisit comment il va t'utiliser, quand il va t'utiliser, où il va t'utiliser, et j'en passe. C'est pourquoi dans le langage approprié des dons spirituels, il n'y a personne qui a le droit, même si nous le disons souvent, qui a le droit de dire, moi j'ai les dons tels. Amen. Amen. Vous allez être étiqué, mais c'est ça la vérité. Vous n'avez pas les dons tels parce que vous ne les possédez pas. On ne possède pas les dons, on les reçoit. Amen. Amen. Parce que ce que vous possédez, on peut venir vous dire, montrez-moi, et vous montrez. Mais celui qui possède les dons, c'est Dieu. Il vient manifester ses dons au travers de toi comme un outil, comme un canal par lequel lui passe. Amen. Et là, le canal ne va pas dire que je possède de l'eau. Parce que l'eau passe seulement par là, en venant de quelque part, pour aller quelque part. Le canal n'est pas l'origine ou la source. Le canal n'est pas la destination. Le canal ne boit pas l'eau. Amen. Alors donc, nous devons nous retrouver dans la disposition telle que nous sommes prêts à recevoir. Alors Dieu donne pour le temps qu'il veut que ça dure. Et quand il a fini la mission, alors ça cesse. Vous n'allez pas penser que vous allez recevoir les dons aujourd'hui, vous allez dormir avec, vous rêver avec, vous promener avec. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vient à un moment donné. Vous avez le Saint-Esprit parce que Christ, l'Esprit de Christ habite à vous. Mais ici, c'est une intervention spirituelle par laquelle le Saint-Esprit veut et décide d'agir de manière surnaturelle pour accomplir une mission en un moment précis, pour résoudre un problème spécifique. Alors, il agit. Quand il a fini d'agir, alors il se comporte comme il veut. Ça cesse à ce moment-là. Vous ne pouvez pas utiliser les dons du Saint-Esprit comme si c'était un appareil qu'on a connecté au courant pendant toute la journée. Non. Parce que ce n'est pas vous qui connectez. C'est Dieu qui intervient. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors donc, ça c'est la première chose qu'il faut connaître. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un si réellement la personne n'est pas née de nouveau. Je disais que je vais revenir sur ça plusieurs fois. Et le mot « naître de nouveau » est revenu avec Nicodème dans Jean 3,16 où il a été dit « il faut que tu naisses de nouveau ». Et il ne comprend pas, il pose des questions. Jésus dit, ne t'étonne pas si j'ai dit qu'il faut que tu sois né de nouveau, parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas recevoir la manifestation du don du Saint-Esprit. Ce qu'il peut recevoir, c'est la manifestation de quelque chose qui ressemble au don du Saint-Esprit, mais qui ne vient pas de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la première chose. Une personne ne peut pas recevoir les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels, pour le mettre en opération, pour le faire opérer, s'il ne se met pas à la disposition de Dieu et s'il ne se confie pas à lui avec le désir ardent de le servir comme un instrument entre ses mains. C'est-à-dire, c'est lorsque nous nous mettons à la disposition de Dieu et Dieu voit que nous avons le désir de le servir, alors Dieu va prendre l'instrument, il l'utilise quand il veut, où il veut. Et quand il va finir de l'utiliser, il le dépose pour qu'il se repose. Et quand il va vouloir encore l'utiliser, il le prend, il l'utilise. Quand l'action et la mission est finie, il le dépose. C'est comme ça que Dieu agit. Et il faut qu'il vous trouve dans cette disposition-là. C'est la deuxième condition. Troisième condition, le niveau de consécration compte aussi. Parce que c'est ça qui fait que nous puissions revêtir la nature de Dieu. Dieu examine pour voir à quel degré avez-vous revêtu la nature de Dieu. Et là, je vais vouloir que nous puissions lire dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. C'est là que la parole de Dieu nous parle de comment la nature de Dieu vient à nous pour que nous puissions la revêtir. Je disais 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Je crois que je me suis trompé avec le texte, mais je vais vous dire ce que ça dit. Je vais donner l'idée, vous allez peut-être m'aider à trouver le verset. Comme sa divine puissance nous donne la possibilité de participer à la nature divine. Faites donc tous vos efforts pour joindre ça. Est-ce que ce n'est pas un? Ça doit être chapitre 1, verset 3 et suivant. Alors, il dit ceci. Ça nous donne la possibilité de participer à la nature divine. Et à cause de cela, faites tous vos efforts pour associer, pour ajouter à votre foi. Non, c'est le deuxième épître. La deuxième épître, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu, la science, ainsi de suite. C'est-à-dire ici, la parole de Dieu veut que nous puissions comprendre que le Seigneur ne va pas nous utiliser en nous donnant ses dons, en nous accordant des dons comme des interventions spirituelles, surnaturelles, si nous n'avons pas appris à participer à la nature de Dieu. Et Dieu a déjà mis à notre disposition sa divine puissance qui nous entraîne dans cette dynamique. Je reviens là. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, tout le nécessaire qui contribue à la vie et à la piété, et à nous engager dans cette dynamique de participer à sa nature, alors nous sommes disposés à recevoir les dons spirituels à condition que nous puissions joindre à notre foi beaucoup d'autres choses. Et à la fin, là, vous allez comprendre qu'il dit, si vous faites ça, vous n'allez pas rester oisif. Verset 8. Car si ces choses sont à vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur va vous utiliser avec des dons spirituels et vous allez porter du fruit. Vous n'allez pas être oisif. Oisif, c'est paresseux, qui n'a rien à faire. C'est-à-dire, les gens sont dans l'église parce qu'ils ne font rien dans l'église parce qu'ils sont oisifs. Ils ne trouvent rien à faire à l'église. Alors, que si vous demandez à ceux-là qui sont occupés à l'église, ils vont vous trouver qu'ils ont beaucoup à faire, ils sont même fatigués à les faire. Amen. Amen. Ces gens-là s'étonnent à voir des gens qui sont à l'église et qui croisent les bras. Ils restent oisifs parce qu'ils n'ont pas goûté à la puissance de Dieu qui nous donne tout le nécessaire, qui font que nous soyons capables de participer à la nature de Dieu. Amen. Alors, ça, c'est une chose. Une autre chose, j'ai parlé du niveau de consécration. Je vais ajouter deux éléments avant de terminer. Si la personne ne prend pas toutes les dispositions pour ne pas tomber dans le piège du diable, sachant que lorsqu'une personne s'approche de plus en plus de Dieu, le diable aussi s'approche de plus en plus de lui. Et son objectif, c'est de faire échouer la mission de Dieu dans sa vie. Je voudrais que nous puissions lire Luc chapitre 9 pour que nous puissions comprendre mieux. Luc 9, 51-55. Là, nous allons comprendre pourquoi, en nous approchant de Dieu, nous devons faire attention de tomber dans le piège du diable. Parce que le diable, quand vous cherchez Dieu, vous approchez de lui, le diable s'approche aussi de vous avec l'objectif de vous tendre les pièges et de faire échouer la mission de Dieu dans votre vie. Luc chapitre 9, je disais, verset 50 combien ? 51. La Bible dit ceci. Voici ce que je voulais vous dire. Dans le chapitre 9 de Luc, il y a le verset qui dit « Quand Jésus était arrivé à Samarie, dans un village de Samarie, alors il a cherché là où passer la nuit et on ne l'a pas reçu. Alors Jacques et Jean sont venus auprès de Jésus et lui ont dit « Seigneur, ne peux-tu pas permettre que nous puissions invoquer le feu du ciel et que le feu du ciel puisse venir consumer ces gens maintenant, ici et maintenant ?» 54, hein? Merci beaucoup. Corrigez ce que j'ai donné. Alors Jésus a dit quoi? Jésus a dit, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Eux pensaient qu'ils étaient, ils disaient ça en étant animés par l'esprit de Dieu. Mais curieusement, Jésus dit clairement que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime, mais je suis triste de constater que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, si Jésus dit ça, il dit quoi? C'était de quel esprit? Est-ce que c'était l'esprit de Dieu? Non, parce que la suite du texte le montre. Je me suis arrêté seulement à ça pour montrer que Jésus, c'est lui-même qui le dit. Alors, écoutez-moi bien. Est-ce que Jean et Jacques qui ont dit ça, je crois que je ne me trompe pas, c'est Jean et Jacques. Hein? Alors, ceux-là qui disent ça, vous les connaissez comment? Quand vous connaissez Jean, vous les connaissez comment? Parce qu'ici, expressément, ce n'est pas cette fois-ci le malheureux Judas Iscariote qui a parlé. Parce que quand on dit Judas Iscariote, tout le monde dit, ah, ça c'était malheureux vraiment. Mais ce sont les bienheureux apôtres, y compris Jean. Jean, qu'on appelle les disciples que, comment? Que Jésus aimait. C'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais fait de faux pas dans la Bible. Mais ici, au moins, la Bible n'a pas honte de dire que Jean, qui est inventé par Jésus, a commis une grave erreur de se laisser animer par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça démontre ce que nous sommes en train de nous dire ici, que faisons attention parce qu'un bon chrétien né de nouveau, qui cherche Dieu, qui est dévoué dans la marche avec le Seigneur, lorsqu'il s'approche de Dieu, de plus en plus il s'approche de Dieu, de plus en plus le diable s'approche de lui. Je vais vous dire que le diable n'a pas peur de s'approcher de Dieu, mais pas avec les mêmes objectifs que lorsque le chrétien s'approche de Dieu. Le diable a été avec Dieu lorsqu'il a accusé qui? Job. Est-ce qu'il avait peur d'être avec Dieu? Non. Il n'a pas eu peur. Il est allé avec objectif de dire, je sais que Dieu va me demander si j'ai vu Job. Je vais dire, oui, je l'ai vu, mais il est gâté. Il est venu avec des accusations. Alors, donc, tout comme le diable veut nous accuser auprès de Dieu lorsque nous ne sommes pas là, le diable, lorsque nous allons auprès de Dieu, il vient pour nous tente de piège pour que nous ne puissions pas atteindre les objectifs de la mission de Dieu dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il peut donner quelque chose qui ressemble à un don de Dieu. Parce qu'ici, il s'était souvenu du Mont Carmel où Élie avait dit, bon, vous dites, vous êtes cette vérité de Dieu, ok, faisons le test simple, que votre Dieu descende le feu. Alors, il savait qu'ils sont du Dieu qui fait descendre le feu et que ce n'est pas la première fois qu'il fait descendre le feu. Ils peuvent demander que le feu arrive et le feu va arriver. Mais pour Élie, c'était un réma. Demande le feu, je vais donner. Mais pour ceux-ci, ils n'ont aucun réma. Ils se basent sur le logos d'Élie et ils pensent que c'est leur réma. Et le Seigneur dit, ça c'est un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous devez faire attention. Donc, c'est parmi les conditions que nous devons remplir pour être sûrs que nous allons recevoir les dons et les utiliser à bon escient Parce que nous pouvons recevoir ce qui ressemble au don et nous allons penser que nous sommes en train d'utiliser les dons spirituels alors que nous sommes en train d'utiliser les dons démoniaques. Dernier, c'est que la personne doit mener une vie de sanctification avérée. Parce que la Bible dit dans Hébreux, d'abord dans Matthieu, heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Là, Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit recherchez quoi? D'abord quoi? La paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pourquoi il est associé la paix à la sanctification? Pourquoi évoquer ça lorsque nous parlons des dons spirituels? Les dons spirituels, tous les dons spirituels, pour autant que ça vient de Dieu, ça amène la paix. Amen. Un don spirituel qui n'amène pas la paix n'est pas de Dieu. Les prophéties qui n'amènent pas la paix ne sont pas de Dieu. Les parler en langue qui n'amènent pas la paix ne sont pas de Dieu. Toutes les paroles de connaissance, toutes les paroles de sagesse, tous les discernements d'esprit, tout ce qui ressemble au don spirituel, qui n'installe pas la paix dans l'Église, entre les membres qui ont écouté ou qui ont vu le don spirituel se manifester, si la paix n'est pas là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est l'Esprit de paix, le Prince de paix. Amen. Alors, que le Seigneur nous aide à comprendre. Et c'est ça le test. Si les dons n'édifient pas, alors il ne vient pas de Dieu. Si vous n'avez jamais été édifié par la parole de Dieu sur base de ce que l'Esprit de Dieu réalise dans votre vie, alors vous ne pouvez pas être le canal qui va faire passer les dons spirituels, qui va édifier l'Église de Dieu. Que le Seigneur nous aide à nous mettre en place, kujipanga sawa sawa, pour que le Seigneur nous utilise en nous donnant des dons spirituels. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Nous sommes debout. Je crois que vous avez été édifiés par le message de Dieu. Il est temps que vous puissiez commencer à prier pour votre vie chrétienne personnelle. Parce que si vous ne faites pas attention, vous pouvez penser être utilisé par Dieu alors que vous avez déjà déconné. Il est vrai que nous aspirons à certains dons, mais il est nécessaire de se poser la question si ce à quoi nous aspirons, c'est réellement là où Dieu nous oriente. Tu vas saisir cette opportunité pour prier à faveur de toi-même. Tu pries pour ta vie chrétienne. Tu as besoin d'être inspiré par Dieu en tout ce que tu fais. Tu as besoin d'être inspiré par Dieu pour bien exercer le don que le Saint-Esprit t'a accordé. Alors, prie. Commence à demander à Dieu de t'orienter. Parle à Dieu parce qu'il est le seul qui peut te guider. Il est le seul qui peut t'aider à être efficace. Peut-être que tu étais déjà intéressé par certaines personnes qui t'ont parlé du parler à langue et aujourd'hui tu viens de te rendre compte que tu étais déjà dans l'erreur. Tu vas demander à Dieu de te pardonner et tu vas demander à Dieu de t'orienter. Toutes les fois que tu parles à langue à l'église, et qu'il n'y ait pas d'interprète, mais qui est édifié par ta langue. Toutes les fois que tu parles à langue dans une congrégation, et tu constates que vous êtes à plus de trois, tous vous parlez à langue, sans qu'il y ait quelqu'un pour interpréter ça. Mais quelle église vous êtes en train d'édifier? Tu vas prier pour toi-même, prie. Et après avoir prié en faveur de ton ministère, tu vas prier pour ta famille. Peut-être que tu connais un élément qui ne marche pas dans ta famille, que ce soit famille restreinte, que ce soit famille élargie, tu vas la présenter à Dieu parce que Dieu est capable d'opérer des miracles dans ta famille. Prions le Seigneur. Tu peux profiter de cette occasion pour présenter une famille de cette paroisse à Dieu. Tu as peut-être une famille de cette paroisse que tu portes à cœur. Présente-la à Dieu. Présente-la à Dieu. Présente cette famille à Dieu. Que ce soit une famille où il y a un problème donné. Présente cette famille à Dieu et Dieu va agir. Avant de clore ce moment de prière, je suis convaincu que quelqu'un parmi nous peut avoir une requête qui pèse sur son cœur. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous sommes à une semaine de prière. Si vous avez une requête qui pèse sur votre cœur, vous allez devoir avancer. Et l'homme de Dieu va prier à votre faveur. Vous avez une requête qui pèse sur votre cœur. Une requête particulière. Une requête qui vous embarrasse. Vous allez avancer et le pasteur va prier à votre faveur. Sentez-vous libre. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Nous allons prier avec le pasteur quand tout le monde sera déjà là. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins.
Père Céleste, te disons merci parce que tu nous connais, tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, tu nous as donné tout ce que tu avais, c'était le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. Et ta parole nous dit que comme tu nous l'as donné, il n'y a plus rien que tu ne peux pas nous donner qui se trouve entre tes mains. Tu nous aimes vraiment. Disons merci parce que tu nous aimes, chacun d'entre nous. Tu aimes chacun de ceux-là qui viennent de prendre la position à genoux devant toi. Ce n'est pas devant un homme. Seigneur, tu sais, tu connais mieux que quiconque ce qui pèse lourd au cœur de chacun de ceux-ci. Tu sais, tu connais mieux, tu maîtrises bien les situations difficiles par lesquelles chacun d'entre eux est en train de passer. Je te demande, Seigneur, de lire les requêtes dans le cœur de chacun, de les accepter comme un appel, comme un cri d'alarme, comme une prière faite à toi. Toi qui as dit, appelez-moi, je vous répondrai. Accepte d'accepter que chacun d'entre eux, par ses gestes, de se mettre à genoux, il est en train de t'appeler. Et seulement toi et pas quelqu'un d'autre, pas un homme, mais toi Dieu, le seul vrai Dieu. Que nous avons, que nous servons, le Dieu qui dit et qui réalise, le Dieu fidèle à toutes ses promesses, réalise ta promesse à chacun d'entre eux, parce qu'ils t'appellent, ils veulent avoir une réponse maintenant. Seigneur, je te demande de répondre à chacun dans ta grâce, parce que tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Qui agit de manière surnaturelle dans la vie d'un homme naturel. Accepte que l'impossible devienne possible dans la vie de chacun d'entre eux, Seigneur, dès maintenant. Parce que tu es le Dieu qui change l'histoire d'un homme. Tu es le Dieu qui suspend les lois de la nature.
Tu es le Dieu qui change les lois de la nature pour atteindre tes objectifs dans la vie d'une personne humaine. Seigneur, change les choses dans la vie de chacun d'entre eux. Merci Seigneur parce que tu écoutes. Merci parce que tu dis que nous devons accepter que tu nous as écoutés par la foi. Toi qui dis que si nous ne doutons pas, nous allons voir les montagnes se déplacer. Seigneur, vole à notre secours lorsque nous te prions, alors que nous doutons encore. Fais pour nous ce que tu as fait pour tes disciples lorsqu'ils priaient pour Paul, pour Pierre. Et Pierre était emprisonné. Il demandait qu'il soit libéré. Mais en même temps qu'il priait, toi, tu as exaucé leur prière. Tu as libéré Pierre. Quand il est arrivé à la porte, on a pensé que c'était un démon, que c'était un monstre, que c'était le fantôme, que Paul et Pierre étaient déjà morts et que c'était son esprit qui revenait, alors que c'était lui en personne. Vole au secours de notre petitesse de foi et écoute notre prière et agis en répondant d'une manière spéciale à chaque cas particulier d'entre ceux-là qui sont à genoux devant toi. Parce que c'est devant toi qu'ils sont. Merci d'écouter. Merci d'écouter. Merci d'exaucer. Merci de répondre positivement au cri de chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu as agi. Tu agis et que tu continueras à agir. Tu montreras que tu as manifesté ton amour et ta grâce en faveur de chacun d'entre nous. Merci de nous donner chacun la réponse qu'il attend de toi. Nous te l'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Sa